Chapitre 2. Monsieur Lacroix était à la mairie quand Victoire entra. « Ah, dit-il, je vous attendais. Asseyez-vous là et causons. »« Monsieur, dit Victoire, qui semblait embarrassé, j'ai rien à ajouter à la déposition que vous avez entendue. »« Absolument rien, dit le commissaire Goguenard. Non, monsieur. » « Ma fille, je vois que Madame Larocque, en se taisant, vous a donné un fort mauvais exemple. Vous allez me dire ce que vous savez, tout ce que vous savez, entendez-vous? Sinon, en cas de refus... » Victoire se mit à pleurer et cacha sa tête dans son tablier. « Sinon, répéta sèchement le magistrat, j'appelle un des gendarmes et je vous emmène avec moi à Versailles, à la disposition de Monsieur le procureur de la République. » Il sonna, un gendarme entra aussitôt. « Apprêtez-vous à conduire cette femme à Versailles, » dit le commissaire. Les larmes de Victoire redoublèrent. « Monsieur, je vous en supplie, qu'on ne me fasse pas de mal. » Monsieur Lacroix lui prit les mains, les abaissa et la força de le regarder. « Vous, dit-il, pour craindre autant la justice, il faut que vous ayez eu maille à partir avec elle. Combien de fois avez-vous été condamné ?»« Oh, monsieur !» s'écria Victoire avec indignation. « Mais j'ai jamais été condamné, et je n'ai jamais comparu, même comme témoin. »« Eh bien, ma fille, vous ferez connaissance avec la cellule, si vous persistez dans votre entêtement. » Victoire essuya ses yeux. « Soit, dit-elle, je parlerai puisque je ne puis faire autrement. À la bonne heure, nous voilà revenus raisonnables. Je vous écoute, ne vous pressez pas, n'oubliez rien, n'omettez aucun détail. Vous me promettez au moins qu'il m'arrivera pas malheur. Je vous le promets et je vous prends sous ma protection. Alors... « Je vais tout vous raconter. » Elle se leva, rapprocha sa chaise du bureau du commissaire de police, se rassit et parlant très bas. « Ben, c'était hier soir, vers 11h30, j'étais pas couché, madame, avait attendu monsieur jusqu'à 8h pour dîner, et ne le voyant point venir, avait dîné sans lui. Puis, madame est rentrée dans sa chambre avec sa fille. En général, on couche l'enfant vers 9h, mais hier, je ne sais pas pourquoi, madame l'a gardé chez elle. À 11h30, madame m'a sonné. Je suis entré. Madame, avec Suzanne, était au balcon, où guettait sans doute l'arrivée de monsieur. Madame était restée jusqu'à cette heure-là sans lumière. La nuit était si belle, hein, en clair de lune magnifique. Madame me dit d'allumer, et au même instant, Suzanne se penchait au-dessus du balcon et criait « Père, père !» Elle venait d'apercevoir monsieur et madame aussi, car je l'entendis qui disait « Roger, pourquoi es-tu en retard? Comme nous sommes inquiètes !» Monsieur Lacroix écoutait avec la plus vive attention. Et comme elle était arrêtée, elle dit simplement avec douceur « Continuez, ma fille, ça peut être tout ce que vous avez à me dire. »« Non, malheureusement non. » Madame et mademoiselle ne faisaient plus attention à moi et regardaient toujours M. Larocque dans la rue. Moi, j'étais en train d'allumer la veilleuse et de faire la couverture du lit. Tout à coup, Suzanne dit « « Tiens, père qui va chez le voisin. » Et il se passa peut-être une ou deux minutes, pendant lesquelles on n'entendit plus rien, et je m'approchai de madame pour lui demander si elle avait besoin de moi. Quand je m'arrêtai, un coup de pistolet venait d'éclater tout près, en face. Et madame, avec un grand cri, oh, que j'entendrai toute ma vie, tant il était déchirant, s'était jeté dans sa chambre en disant « Roger, lui, c'est horrible !»« Alors, monsieur, j'ai eu si peur que j'ai voulu m'en aller. » Et tout en reculant, je voyais madame pâle, tremblante, qui avait pris sa fille dans ses bras et la serrait de toutes ses forces, et lui parlait bas à l'oreille en la caressant. Et Suzanne répondait. Et que se disait-elle? Oh, monsieur, j'ai rien entendu. Mais elles étaient toutes deux dans un désordre inexprimable, si épouvantées que j'en frissonnais de tout mon corps. Et madame avait oublié certainement ma présence, car lorsqu'elle m'aperçut tout à coup, elle faillit tomber à la renverse. Le reste, monsieur, vous le savez, je vous l'ai dit à la villa quand vous m'avez interrogé. Madame a prétendu qu'elle n'avait pas entendu le coup de feu, me disant que j'étais folle, et elle m'a renvoyé. Monsieur Larocque est-il rentré longtemps après? Environ un quart d'heure. A-t-il parlé à sa femme? Non, il est rentré droit chez lui, mais parlez, ma fille, ne mettez aucun détail. Mais de toute la nuit, M. Larocque ne s'est pas couché. Vous en êtes sûr? Non, je m'en suis bien aperçu ce matin, quand j'ai voulu faire sa chambre. Et Madame Larocque? Je jurerais qu'elle non plus s'est pas mise au lit. Et pourtant le lit était défait, mais sans la trace du corps et sans chaleur comme d'habitude. Après ce que j'avais vu et entendu, j'ai fait ces remarques naturellement, de telle sorte que je présume que Madame Larocque aura exprès ce matin chiffonné ses draps pour ne pas éveiller mes soupçons. Quant à Suzanne, elle était si pâle et si fatiguée, tout à l'heure, monsieur l'a vu, qu'on peut affirmer que la pauvre petite n'a guère dormi non plus. Bon, à présent, monsieur, j'ai tout dit. Vous en savez autant que moi. Puis-je me retirer? Vous le pouvez, mais tenez-vous prête toutefois à vous présenter à la première réquisition de la justice. Après ce qui s'est passé, après ce que je viens de vous raconter, il m'est impossible de reprendre mon service auprès de ma maîtresse. Je vais aller à la ville chercher mes effets. Je donnerai congé à madame, et en attendant de trouver une place, je resterai chez ma sœur, qui habite boulevard Ornano, 146. Prenez l'adresse. Au lieu de retourner chez madame Larocque, dit le commissaire après un moment, écrivez-lui simplement que vous la quittez, et envoyez un commissionnaire chercher votre mal. Je tiens à ce que nous ne voyions pas votre ancienne maîtresse. C'est comme il vous plaira, monsieur, dit Victoire. Et elle prit congé du magistrat. Il relut la déposition de la femme de chambre qu'il avait rédigée soigneusement et qui lui avait fallu faire signer avant qu'elle sortît. Puis, visant la masse de papier saisie chez Larouette, il se rassit, et un à un se mit à parcourir tous ses feuillets épars devant lui. Cette besogne lui prit 2 heures. Au bout de ce temps, il avait fait 2 parts de papier. D'un côté, tout ce qui ne l'intéressait pas, et de l'autre, seulement 2 lettres, ne contenant chacune que quelques lignes. Mais en les lisant, ces lignes, M. Lacroix n'avait pu retenir une exclamation de surprise et de joie. Elles étaient datées de 8 à 10 jours, toutes deux adressées à Larouette, qui, d'après l'enveloppe jointe, habitait alors rue Saint-Roch, numéro 17 à Paris. La première était ainsi conçue. « Monsieur, vous me mettez en demeure de vous rembourser un dépôt de 130 000 francs fait chez moi par votre oncle maternel, M. Célestin Vaubernon, dont vous venez d'hériter. » Je ne vous cacherai pas, monsieur, que la restitution d'une somme aussi importante en ce moment me créerait des embarras très graves. Si vous voulez vous donner la peine de passer à mon bureau, rue Saint-Maur, je vous expliquerai de quelle nature sont ces embarras. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments très empressés, Roger Larocque. L'autre était laconique et navrante de désespoir. Monsieur, vous l'exigez, c'est votre droit. Vous pouvez passer, rue Saint-Maur, toucher à ma caisse les 130 000 francs de votre oncle, plus les intérêts courus que je payais tous les ans. C'est pour moi presque à coup sûr la ruine, la faillite, mais le déshonneur. Recevez, monsieur, mes civilités, Roger Larocque. la conviction de M. Lacroix était fermée. C'était, du moins, les plus grandes preuves qui s'accumulaient contre lui. C'était Larocque qui avait commis le meurtre. Larocque avait remboursé Larouette, et pour éviter la ruine et la faillite, il avait songé au crime, il avait tué Larouette. M. Lacroix ne perdit pas son temps en déductions inutiles. Cette affaire se présentait pour lui dans toute sa clarté limpide. Il fallait agir avec énergie et brusquer les choses. Il fallait empêcher Larocque de faire disparaître la somme volée à Larouette. Lacroix prit le train de Paris et courut à la préfecture. On lui confia deux agents habiles, Tristot et Pivollo, qui, sans appartenir directement au service de sûreté, lui rendaient cependant des services. Tristot et Pivollo marchaient toujours ensemble et avaient acquis depuis quelques années une certaine réputation de finesse. Lacroix leur raconta l'affaire et les chargea de prendre des renseignements sur Roger en même temps que de reconstituer l'emploi de la journée et de la soirée du constructeur mécanicien le jour du crime. Puis, ayant ses coudées franches, ayant tout préparé, il alla s'enfermer dans son cabinet pour arrêter en son esprit l'interrogatoire qu'il ferait subir le lendemain aux habitants de la villa Montalais. Et que se passait-il à la villa? Vers 1 heure du matin, Roger rentra. Il vint, comme la veille, écouter à la porte de la chambre de sa femme, puis traversa le salon sur la pointe des pieds. Il s'enferma aussitôt. Mais le silence était si profond en ce coin de campagne où frissonnait seulement au dehors un souffle de brise dans les arbres, si profond en cette maison isolée, que la mère et la fille entendirent Roger, qui, en se déshabillant et se couchant, fredonnait une ronde enfantine apprise à Suzanne en un jour de bonne humeur. Et cette seconde nuit s'écoula comme la première. Suzanne abattue dormit pourtant dans le lit de sa mère. Mais Henriette ne songea même pas à se coucher. Elle resta éveillée, semblant écouter son cœur, les yeux ouverts, toujours si terrifiée qu'assurément, en ces heures nocturnes qui font naître si facilement les fantômes, elle revoyait le drame lugubre de la veille. Vers 7 heures, elle entendit du bruit dans la chambre de son mari. Il avait dormi, lui, sans remords, sans fantômes ni cauchemars. Et il se réveillait gaiement, car il chantait la même ronde enfantine apprise à Suzanne. Mais quel monstre avait-elle donc épousé? Quel homme était-ce donc à ce point maître de lui pour si vite oublier et trouver le repos en face même de son crime? Oui, il chantait, comme si le brillant soleil du matin, dont la ville l'a été baignée, lui eût donné au cœur de l'espérance et la joie. Il chantait en s'habillant, ayant ouvert la fenêtre. Et Suzanne, réveillée, écoutait dans son lit la ronde apprise par son père, qui la faisait tant rire encore la veille, et qui maintenant lui donnait envie de pleurer. Roger traversa le salon, frappa à la porte de la chambre. « Entrez !» dit Henriette d'une voix faible. Roger entra, le sourire sur les lèvres, mais s'arrêta surpris en voyant sa femme habillée debout. « Déjà ? » dit-il. « Il n'est pas 8 heures. Il fait si beau que j'irai tout à l'heure me promener avec Suzanne. » Que vous êtes heureuse et que je voudrais vous accompagner. » Il embrassa tendrement Henriette, qui ne se défendit pas. Et avisant Suzanne, dont il ne semblait pas comprendre le regard épouvanté, « Comment, mademoiselle, encore aujourd'hui, dans le lit de votre mère, on vous gâte? Oh, je ne permettrai pas ces libertés-là. » Et s'asseyant sur le lit, il prit dans ses bras la fillette en chemise, l'embrassant à pleines lèvres et la faisant danser. L'enfant n'avait pas desserré les lèvres. Les yeux étaient fixes. On eût dit qu'elle avait perdu la raison. « Vous n'êtes pas réveillé, vous avez l'air boudeur, » dit Roger. « Rendez-vous, dormez-vous, mademoiselle, allez !» Et il la replaça dans le lit doucement, après l'avoir embrassée encore. « Ah, à propos, » dit-il d'un ton indifférent, « et le meurtre du voisin, sait-on qui l'a commis ? A-t-on découvert le meurtrier ?»« Je l'ignore, mais le commissaire est venu hier nous interroger. » « Ah, toi ?» fit Laroque avec un mouvement. « Et à quel propos ?»« Comme il a été tiré un coup de pistolet la nuit dans la maison proche de la nôtre, on pouvait supposer que nous avions entendu, que nous avions vu. »« Ah oui, c'est juste. »« Mais toi-même, Roger, » dit la jeune femme tremblante, « comment as-tu connu cet assassinat puisqu'hier matin tu es parti avant qu'on l'eût découvert ?» Oh, tout simplement cette nuit à la gare de Ville d'Avray. Le chef de gare m'a dit ce qu'il savait. Peu de choses en somme, pas même le nom. Notre voisin était un petit rentier du nom de Larouette. Roger Laroque se retourna brusquement à ce nom. Il était pâle. Tu as dit que la victime s'appelle Larouette? Je l'ai appris dans la journée. Voilà qui est étrange, murmura Roger. Il garda le silence pendant quelques minutes, puis demanda : Sait-on quelle a été le mobile du meurtre ? Sans doute le vol, dit Henriette, regardant son mari dans les yeux. Mais Roger ne prenait pas garde à la singulière émotion de sa femme. Il se mordait les lèvres et paraissait en proie à une très vive préoccupation. À la fin, il sortit, prit son chapeau et sa canne. Oh, « Excusez-moi, » dit-il, « je pars, je ne veux pas manquer le train. » Elle ne répondit pas. Au lieu d'aller directement à la gare, Roger descendit à la mairie. Il fit passer sa carte au commissaire qui arrivait de Versailles et avec lequel, dit-il à l'agent qui le reçut, il désirait avoir sur le champ un entretien particulier. On l'introduisit. Lacroix, sans parler, lui indiqua un siège. Le cœur du jeune magistrat battait un peu. Que venait faire Roger Laroque ? Quel audacieux plan avait conçu celui qu'il considérait comme le meurtrier de Larouette ? Il craignait un piège et il était sur ses gardes. Monsieur, dit Roger, je viens vous donner au sujet du crime qui s'est commis près de chez moi un renseignement qui, sans doute, vous sera très utile. Je viens d'apprendre le nom de la victime. Or, monsieur, j'ai été obligé de rembourser dans la journée d'hier plus de 130 000 francs à un homme qui porte ce même nom de Larouette. La coïncidence est étrange. Seulement mon créancier habitait Paris, rue Saint-Roch, du moins, il y avait un appartement. Comme ce remboursement me gênait beaucoup, j'ai eu en ces derniers jours d'assez fréquents rendez-vous avec Larouette que je suppliais de le retarder dans l'intérêt de ma maison. Je reconnaîtrai donc facilement mon créancier et, si vous voulez, je vous dirai... Cette confrontation serait inutile, monsieur Laroque. Le Larouette assassiné est le même que celui auquel vous avez restitué 130 000 francs plus les intérêts. Mais comment le savez-vous ? J'ai retrouvé dans ses papiers vos lettres où il est parlé de ce remboursement. Je vous remercie quand même de votre visite et du renseignement que vous m'apportiez dans l'intérêt de la justice. Permettez-moi cependant, avant de vous laisser partir, de vous adresser quelques questions. Larouette, pour obtenir de vous ce remboursement, s'est-il servi d'intermédiaire ? Non, il est venu lui-même, il n'a vu que moi. Connaissiez-vous son existence, ses habitudes, ses liaisons, ses vices ? Il y a 15 jours, je ne l'avais jamais vu. ainsi que vous l'explique une des deux lettres que vous avez entre les mains, le dépôt de cette somme avait été fait chez moi par un vieil ami de mon père, Célestin Vaubernon, oncle maternel de la Rouette, mort subitement il y a 3 semaines. Ce que je puis dire, c'est que M. Vaubernon n'aimait pas son neveu. Vous pourrez, je suppose, nous donner le détail des valeurs, or ou billets, qui constituaient les 130 000 francs remboursés à la Rouette. C'est pour nous, vous le comprenez, de la dernière importance. J'en conférerai avec mon caissier, qui seul est en mesure de vous fournir ces détails. Laroque prit congé. L'heure du train approchait, les deux hommes se saluèrent. Monsieur Lacroix le regarda du coin de l'œil par la fenêtre entrouverte du cabinet, s'éloignant dans la direction de la gare. « Toi, mon bonhomme, murmura-t-il, tu es très fort, mais tu t'es approché trop près de la flamme, ça te brûlera. » Il prit dans son portefeuille une lettre de convocation tout imprimée. Il remplit les blancs, écrivit l'heure de la convocation, le nom de Madame Laroque et le post-scriptum suivant, prière d'amener Mademoiselle Suzanne. Puis il mit la lettre sous enveloppe et l'envoya porter à la villa. Lorsqu'Henriette la parcourut, elle trembla. La lettre, sèche et brève, était conçue en termes administratifs. Vous êtes prié de vous présenter à la mairie près du commissaire de police de Versailles pour affaires qui vous concernent. Mais que voulait Monsieur Lacroix ? L'interroger ? Interroger Suzanne ? Une sorte de colère froide la prit contre cet homme dont elle sentait peser sur elle la curiosité et la pénétrante intelligence. Elle laissa Suzanne à la villa, mit son chapeau et sortit. Monsieur Lacroix était seul quand elle entra. « Me voici, monsieur, » dit-elle bravement, « vous m'avez demandé ?»« Oui, mais je vous avais prié d'amener aussi votre fille. »« Suzanne est souffrante, du reste ce n'est qu'une enfant. Qu'avez-vous à me dire et pourquoi et en quoi puis-je vous être utile ?» « Vous allez le savoir, madame, » dit Lacroix, avançant d'un fauteuil. « Il s'agit toujours, comme vous devez le penser, de l'assassinat de M. Larouette. Je désire, madame, entendre de vous sur ce meurtre la vérité, mais la vérité tout entière, sans hésitation, sans réticence. Je n'ai rien à ajouter à ma déposition d'hier. » Monsieur Lacroix la regarda en face et, froidement, « Vous mentez, madame !»« Monsieur !» lui dit-elle, se levant frémissante. « Vous mentez, j'en ai la conviction et j'en ai la preuve. »« Je vous rappellerai tout d'abord brièvement, » fit le commissaire, « ce que vous m'avez dit lorsque je suis allé à la villa vous demander quelques renseignements. »« C'est inutile, monsieur, je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit. » Je n'ai rien à y ajouter, rien à y retrancher. C'est ce que nous verrons plus tard. Hier, vous aviez prétendu que vous n'aviez rien vu et que vous dormiez depuis 10 heures. Oh, peut-être était-il un peu plus tard, je l'ignore. Beaucoup plus tard. J'aime mieux vous avouer tout de suite que votre femme de chambre ne m'a rien caché de ce qui s'est passé. À 11h30, appuyé à votre balcon, vous attendiez encore votre mari et, chose à remarquer, vous étiez avec votre petite fille, laquelle pourtant se couche d'ordinaire beaucoup plus tôt. Je suis resté assez longtemps au balcon, en effet. Pendant que vous y étiez, voici ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Un homme a traversé la rue. Votre fille a reconnu son père et l'a appelé « Père, père ». Vous l'avez reconnu vous-même, car en vous penchant, vous lui avez reproché d'être en retard et de vous avoir inquiété. Mais c'est fou, Cela est vrai. Vos paroles textuelles, les voici. Roger, pourquoi es-tu en retard? Comme nous sommes inquiètes. Et ce n'est pas tout. Suzanne s'écriait encore, « Tiens, père, qui va chez le voisin ?» Peu d'instants après, une minute à peine, un coup de pistolet est tiré dans la maison qui n'est séparée de la vôtre que par une rue assez étroite. Et vous vous rejetez dans votre chambre comme pour fuir un spectacle terrifiant en disant « Roger et lui, c'est horrible !» Oh, tout cela, monsieur, n'est qu'une suite d'inventions monstrueuses. Et il faut que Victoire soit folle. C'est bien en effet ce que vous lui avez répondu lorsqu'elle vous a demandé si vous aviez entendu la détonation. Enfin, dit-elle, nerveuse et colère, vous ne pouvez pas cependant m'obliger à vous raconter ce dont je n'ai pas été témoin. Non, madame, je ne le puis. La déposition même que vous me faites, je ne puis la relater que sous forme de rapport, car la loi me défend d'entendre comme témoin régulier un allié, père, mère, fille ou femme, de celui que je soupçonne fort d'être le coupable que je cherche. Mon mari? Vous l'avez dit, madame, votre mari. Cette accusation, madame, s'appuie malheureusement sur de fortes préventions, lesquelles seront devenues avant ce soir, j'en suis certain, d'irrécusables preuves. À 7 heures, votre mari doit subir un premier interrogatoire dans son bureau de la rue Saint-Maur. Il est entre les mains de la justice et il faut qu'il se défende. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient rouges mais secs. Elle avait épuisé depuis 2 jours toutes les émotions les plus intenses et elle s'attendait si bien à ce dénouement funeste qu'elle y était en quelque sorte préparée et que cette nouvelle ne lui enlevait rien de son sang-froid. Le commissaire comprit cet état singulier de son esprit. Vous devez beaucoup souffrir, dit-il, et je me fais presque un scrupule d'insister encore. Elle releva le front. Et vous avez tort de me plaindre, monsieur. Et vous avez tort de croire que je souffre. Pourquoi souffrirais-je? Je suis attristé par l'erreur que vous avez commise en faisant arrêter mon mari, mais je suis tranquille sur son sort. Et il n'aura pas de peine à se disculper. C'est votre conviction, tant mieux. Je dirais même que c'est presque votre devoir de parler ainsi. Bien alors, monsieur, pourquoi dès lors m'interrogez-vous? Vous allez le savoir. Je reprends la suite de la déposition de votre femme de chambre. Vous étiez au balcon, et vous avez été, vous et votre fille, témoins du crime. Et telle a été votre épouvante que vous ne vous êtes pas couché. Victoire a affirmé encore que le lit était défait, mais elle a été par vous le matin. Victoire l'affirme. Reconnaissez-vous au moins la vérité de ce détail? Cela est faux comme le reste. Vous n'étiez pas seul à ne point dormir. Victoire a affirmé encore que M. Larocque lui non plus ne s'est pas couché. Et votre mari n'a pas eu, comme vous, la précaution de chiffonner les draps et de défaire la couverture. Oh, mon mari a beaucoup d'affaires. Ses ateliers occupent tout son temps. Il cherche souvent des améliorations, des simplifications pour ses machines. Et les travaux que nécessitent ses inventions l'absorbent parfois au point qu'il passe la nuit devant ses dessins et ses plans, ne se souciant ni de l'heure ni de la fatigue. C'est possible, je le reconnais, mais au moins, vous avouerez qu'elle est singulière, cette coïncidence que tous les deux, la même nuit, vous ne songiez pas à dormir. Je vous répète, monsieur, que moi, je me suis couché. Le commissaire haussa les épaules. Tout me prouve, madame, que votre balcon, malgré tout et sans pouvoir l'empêcher, vous avez assisté au meurtre de Larouette. Vous avez été témoin d'un crime. Et ce crime, J'ai la conviction que c'est votre mari qui l'a commis. Or, ayant vu, vous refusez de parler. Ne comprenez-vous pas que ce refus d'éclairer la justice trahit clairement le nom de l'assassin? Quel autre motif vous empêcherait de parler que la crainte de livrer votre mari à la cour d'assises? Il avait raison, ce qu'elle disait était logique. Elle se trouvait dans une inextricable situation. Ou bien elle parlerait et alors elle accuserait Roger, ou bien elle se tairait et son silence l'accuserait toujours. Pas d'issue, pas de fuite possible. Cet homme la tenait, tenait son cœur et la torturait à son aise. Henriette répondait avec la même obstination, avec le même entêtement, voulant nier malgré tout. Mais le passé de mon mari témoigne de sa probité. Un honnête homme ne devient pas ainsi assassin du jour au lendemain sans motif. Vous pouvez l'accuser, l'arrêter, le traduire en cour d'assises. Personne ne vous croira. Il ne se trouvera personne pour le condamner. Assassin sans motif, dites-vous. Connaissez-vous l'état des affaires de votre mari? Assurément. Sans être riche, nous sommes dans une aisance qui nous permet de vivre très largement et sans souci de l'avenir. Détrompez-vous, madame. Laroque était il y a 2 jours à la veille de faire faillite. Il est bien invraisemblable que votre mari ne vous ait pas mise dans la confidence de ses embarras financiers. Aussi invraisemblable, monsieur, que je ne puis y ajouter foi. Mon mari avait en moi la plus grande confiance. Il ne vous a point parlé non plus du remboursement d'une somme très importante qu'il était obligé de faire à bref délai? Non. Vous voyez donc bien qu'il avait des secrets pour vous. Déjà, sans doute, il préparait son crime et s'entourait de toutes les précautions possibles. S'il vous avait entretenu de ce remboursement, qui ne s'élève pas à moins de 140 000 francs, vous comprendriez la gêne de ses affaires. Et si je vous disais à qui ces 140 000 francs ont été payés, vous hésiteriez peut-être désormais à le défendre. Cet interrogatoire la fatiguait horriblement. Elle avait tiré son mouchoir et elle s'essuyait fréquemment les mains et le front. Une rougeur violente lui brûlait les pommettes. Elle se taisait. « Vous ne me le demandez pas, » fit M. Lacroix impitoyable. « Eh bien, je vais quand même vous le dire. Le créancier de votre mari était justement Larouette. Et c'est le soir même du remboursement de cette créance, si fatale à la fortune de votre mari, que Larouette a été assassinée. » Elle eut un geste d'horreur, mais elle ne dit pas un mot. Elle n'aurait pu, elle n'avait plus de force, elle étouffait. Elle se renversa dans le fauteuil où elle était assise et ferma les yeux. « Pauvre femme, » murmura M. Lacroix, pris d'une pitié profonde. Il plaignait en elle l'avenir, encore plus peut-être que le présent. Chapitre 3. D'ordinaire, Suzanne passait ses journées par ce gai soleil à courir dans le jardin près les papillons, à cueillir des bouquets pour la salle à manger, à arroser les fleurs, les salades et les plates-bandes rouges de fraises, avec le cocher qui s'occupait du jardinage. Elle était la joie de la maison qu'elle emplissait de rires et de chansons. Depuis 2 jours, elle avait voulu rester dans la chambre de sa mère, n'essayant même pas de se distraire avec ses jouets, ni d'habiller ses poupées, ni d'étudier sa leçon au piano. M. Lacroix avait accompagné Henriette jusqu'à la villa, et il était monté avec elle. Au salon où il resta, elle dit d'une voix brève « Ainsi, vous voulez parler à Suzanne, vous voulez l'interroger. » Non, il le faut, madame, je dois arriver à la vérité dans l'intérêt de la justice. Mais savez-vous bien que si mon mari, contre toute vraisemblance, était coupable, ce serait horrible de ce que vous allez faire là. Obliger une fille, une enfant, à accuser son père? Ma joie serait grande de trouver M. Larocque innocent. Et si j'interroge votre fille, ce n'est pas dans l'espoir, ce serait affreux, comme vous le dites, qu'elle accusera son père, mais c'est avec le secret désir que sa déposition l'innocentera. Elle baissa la tête découragée et lentement se dirigea vers sa chambre. Suzanne était là, debout, qui avait tout entendu. Elle tendit les bras à sa mère. Celle-ci la serra contre sa poitrine dans une étreinte convulsive. Et en la couvrant de baisers, elle lui redit encore tout bas à l'oreille « Souviens-toi, souviens-toi !» Elles rentrèrent toutes deux au salon. « Va, » dit la mère à l'enfant en lui montrant le commissaire, « va auprès de ce monsieur, il veut te parler, et réponds bien ce qu'il te demandera. » Suzanne avança avec timidité et vint se placer entre les genoux de M. Lacroix, qui l'entoura de ses bras et lui mit un baiser sur le front. « Elle ne dira rien. Elle a sa leçon faite, » murmura le magistrat. « Te rappelles-tu ce que tu as fait avant-hier soir, ma chère petite ?» L'enfant réfléchit un peu. Elle était fort pâle et avait les yeux très fatigués. Mais son attitude ne marquait aucune timidité, aucune irrésolution. Elle répondit d'une voix ferme. « Oh, ben oui, monsieur, je me le rappelle parfaitement. Et veux-tu me dire ce que tu as fait ?» J'ai joué au jardin très tard, j'ai arrosé les fleurs, j'ai cueilli des fraises, puis j'ai fait un gros bouquet de roses que j'ai mis sur la table de la salle à manger. J'ai joué avec une grande poupée que ma mère m'avait donnée le matin, parce que c'était l'anniversaire de ma naissance. J'ai eu 7 ans avant-hier, monsieur. Alors je l'ai déshabillée, ma poupée. Je lui ai refait avec ma mère une belle robe de satin bleu et je lui ai arrangé aussi un chapeau. Voilà, monsieur. Mais le soir, mon enfant, tout à fait dans la soirée, j'ai rien fait. Je suis resté près de ma mère qui m'a fait répéter mon compliment pour papa, mais je ne lui ai dit que le lendemain parce que papa il est revenu tard et je me suis couché dans le lit de ma mère avant son retour. Tu oublies beaucoup de choses. Peut-être bien, quoi donc? Tu t'es couché très tard, beaucoup plus tard qu'à l'ordinaire. C'est vrai, et pourtant je ne m'endormais pas. Sais-tu l'heure qu'il était? Je ne sais pas, non, monsieur, mais mère le dira peut-être. Mais avant de te mettre au lit... Tu étais au balcon? Avec maman, oui, monsieur. Et du balcon, qu'est-ce que tu as vu dans la rue? Rien. Tu n'as pas vu un homme, celui-là même que tu attendais, ton père? Tu ne l'as pas vu entrer dans la maison du voisin? La voix de Suzanne se fit un peu plus tremblante. Non, monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. « Souviens-toi bien, mon enfant, tu as même appelé ton père en battant des mains parce que tu étais heureuse de le revoir. Et tu sais bien que tu as dit aussi « Tiens, père qui va chez le voisin !» Et un instant après, tu as entendu un coup de feu, « Pan !» qui a dû te faire beaucoup de peur. Voyons, raconte-moi la vérité, mon enfant. « Mais monsieur, je ne me souviens pas d'avoir dit tout ça. » « C'est un mensonge, et ce n'est pas beau de mentir. On a dû te dire cela souvent. Quand tu étais plus petite et que tu mentais, on a dû te punir, te mettre en pénitence. Et si je disais à ta mère de te punir, de t'enfermer toute seule dans une chambre noire. Mère ne me punit jamais que lorsque je l'ai mérité, monsieur. » Et la courageuse enfant regardait sa mère avec une tendresse infinie. Henriette s'était assise auprès de la fenêtre. Lacroix lui tournait le dos, et comme il avait pris Suzanne sur ses genoux, l'enfant, tout en répondant à ses questions, pouvait voir sa mère. Celle-ci dévorait sa fille de son regard anxieux. Elle sentait bien qu'elle vivait toute sa vie en ces quelques secondes. Elle écoutait parler Suzanne, ne respirant pas et contraignant les convulsions de son cœur de ses deux mains crispées. « Madame, dit tout à coup Lacroix, je vous serais bien obligé de me laisser un moment seul avec votre fille. »« Quoi, monsieur, vous voulez ?»« Oui, madame. » Elle se dressa chancelante. En passant près de sa fille, elle se pencha et lui mit un baiser dans les cheveux. Elle lui dit encore son éternel mot, son éternelle prière, « Souviens-toi. » Puis, marchant en se tenant debout par je ne sais quelle force instinctive, car elle ne sentait plus ses jambes, elle traversa le salon sans plus se retourner et rentra dans sa chambre. Lacroix restait seul avec Suzanne. Il vint se rasseoir, où il était tout à l'heure, et la tira de nouveau sur ses genoux. Mais l'enfant résista et se tint debout près de lui. L'expression du regard avait changé. Il y avait maintenant de la crainte. Sa mère partie, elle avait peur. Et ses grands yeux, effarés, ne quittaient pas la porte de la chambre derrière laquelle elle venait de voir disparaître Henriette. « En t'obstinant à ne rien dire, mon enfant, reprit M. Lacroix, tu peux faire beaucoup de mal à ton père. Mais pourquoi ne me dis-tu pas la vérité ? Tu vois cependant que je la connais. Victoire m'a tout raconté. Ce que Victoire m'a dit, pourquoi ne le répètes-tu pas ? Qui t'en empêche ? Que crains-tu ? J'ignore ce que vous voulez de moi et pourquoi vous m'adressez toutes ces questions. Je ne puis vous dire ce que je ne sais pas. Faites venir mère et dites à mère de m'interroger. » Il essaya encore de la mettre sur ses genoux, mais elle se raidit. Il y avait un homme âgé et sans défense, car il n'était pas robuste, qui demeurait là, dans cette maison qui fait face à la vôtre. On l'a tué, ce pauvre homme, et tout le monde me dit que tu as vu celui qui l'a tué. Or, c'est un grand, très grand crime, vois-tu, cela, et qui mérite une punition. Si on avait tué ta mère, ne voudrais-tu pas qu'on punisse celui qui l'a tué ? Suzanne se retenait pour ne pas pleurer. Le commissaire de police s'en aperçut. Il sentait fondre, pour ainsi dire, sous sa main, cette énergie dont Suzanne, jusqu'à ce moment, avait fait preuve. Elle fit un brusque mouvement pour se dégager, s'éloigner de cet homme, courir vers sa mère. Il ne voulut pas lui laisser le temps de se remettre. « Tu le connais donc, que tu ne veux rien dire ?» Car autrement tu parlerais, et si tu le connais, et si tu te tais, c'est qu'il est de tes amis. Alors, qui cela peut-il être ? Elle avait les yeux gonflés de larmes. Elle ne pleurait pas encore, mais les sanglots lui montaient à la gorge, et comme ces sanglots l'étouffaient, son visage, tout à l'heure si blanc, se colorait de plaques roses par places et ses yeux s'enflammaient. « Ah, si je me trompe, il n'est pas de tes amis. Alors, si tu ne le connais pas, si c'est un homme que tu n'as jamais vu, pourquoi gardes-tu le silence ? Il faut me le dire, mon enfant. Du moment que tu ne l'aimes pas, celui qui a tué le vieux Larouette, du moment qu'il n'est pas de tes amis, pourquoi te retiens-tu de parler ?» « Oh, monsieur, monsieur !» fit l'enfant. Et elle ne put dire que cela. Ses larmes coulaient. Elle éclatait en sanglots. Son corps frêle était tordu par des spasmes nerveux. Est-ce ta maman qui t'a ordonné le silence? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, ta mère a eu tort. Mais si cela est vrai, je ne demande plus rien, car je comprends que tu ne veuilles pas désobéir à ta mère. Réponds seulement à ceci et je te tiens quitte de tout. Est-il vrai que ta mère t'a fait promettre de ne rien dire? Ses sanglots seuls et ses torrents de larmes répondaient. Écoute, chère petite, je serai franc avec toi. Je ne te veux pas de mal à ton père, n'est-ce pas? Mais dis-moi que tu l'aimes. Mais elle était incapable de parler. Tu l'aimes, j'en suis sûr. Eh bien, il y a de vilaines gens qui prétendent que c'est lui qui a pénétré dans la nuit d'avant-hier chez votre voisin Larouette pour le tuer et lui prendre son argent. Alors, si cela est éprouvé, tu ne reverrais plus ton père. Mais si cela est faux, ton père te sera rendu bientôt, et tu pourras toujours l'embrasser, le caresser, grimper sur ses genoux, lui tirer la barbe, et chercher dans ses poches les jouets qu'il te rapporte de Paris. Tu m'écoutes? Oui, oui, monsieur, dit-elle entre ses sanglots. Il dépend de toi que ton père revienne tout de suite. Tu as vu l'homme qui a tué Larouette. Si c'est ton père, ne me le dis pas, mon enfant. Mais si ce n'est pas lui, ne crains pas de parler. Mais je ne sais rien, monsieur. Je n'ai rien vu. Pourquoi me faites-vous tant de chagrin? Le commissaire de police la regarda longtemps en silence. Il lui tenait les deux mains et l'avait éloigné un peu de lui pour la mieux voir. Les larmes descendaient en ruisseaux intarissables le long du visage de la petite fille, s'arrêtaient au coin des lèvres puis tombaient. Elle pleurait debout, la tête droite, sans songer à se cacher. Monsieur Lacroix était très troublé. Tout à coup, avec une sorte de geste de colère, il attira l'enfant, lui prit le front dans ses deux mains et l'embrassa sur les yeux comme pour y refouler les larmes qu'il avait fait verser. « Je t'ai causé du chagrin et je t'en demande pardon, cher enfant, dit-il à mi-voix. Va retrouver ta mère. » Et Suzanne, pleurant toujours, mais sortant victorieuse de cette lutte poignante, alla rejoindre Henriette dans sa chambre. À ce moment, on frappa au salon. Deux hommes entrèrent, c'étaient Tristot et Pivolo. Ils venaient d'apprendre à Lacroix que leur avait donné rendez-vous à Ville-d'Avray et que le matin même, Roger Larocque avait été arrêté dans son bureau de la rue Saint-Maur et interné séance tenante par un commissaire aux délégations judiciaires. Profitant de la présence des deux agents à la villa Montalais, le commissaire procéda à une perquisition dans le cabinet de Larocque et dans sa chambre à coucher. Cette perquisition ne fut pas inutile, car elle amena la découverte dans un placard d'une petite pièce servant de cabinet de toilette des vêtements dont Larocque était couvert la nuit du crime. Tristot et Pivolo, mis en campagne depuis la veille, savait comment Larocque était vêtu le jour où il fut assassiné Larouette et me reconnurent les vêtements sans hésiter. Du reste, Lacroix interrogea aussitôt Madame Larocque. Ce par-dessus, ce pantalon, cette redingote et ce chapeau sont bien ceux que votre mari portait avant-hier. Ah oui, monsieur, je les reconnais. Votre mari vous a-t-il expliqué pourquoi son pardessus était ainsi fripé, son pantalon déchiré, son chapeau bossué? Elle fit un signe négatif. Avez-vous, demande Monsieur Lacroix, les clés du secrétaire et des tiroirs du bureau? Je les ai, oui, monsieur. Voulez-vous me les prêter? Les voici, monsieur. Les trois hommes fouillèrent les tiroirs, ils s'emparèrent de quelques valeurs, actions ou obligations, titres de rente et billets de banque. Dans un des tiroirs du bureau, M. Lacroix trouva un revolver. « Oh oh !» murmura-t-il. « Voici quelque chose d'intéressant. » C'était une arme de petit calibre, un revolver de poche à poignée d'ivoire et assez richement damasquiné. Cette arme, Henriette l'avait vue quelques minutes après l'assassinat de Larouette entre les mains de son mari. Monsieur Lacroix avait fait jouer la batterie et il remarqua qu'un coup avait été tiré. Une cartouche manquait. Il n'en restait que 5/6. En même temps, le canon encrassé prouvait que l'on avait tiré tout récemment. Monsieur Lacroix retira une des cartouches et, avec son canif, en fit sauter la balle. Celle-ci était de la même grosseur que la balle extraite par le médecin de la poitrine de Larouette. S'il m'était resté un doute, voilà qui me convaincrait, se disait-il, et il glissa le revolver dans sa poche. La suite de la perquisition ne fit rien découvrir d'intéressant. Sur le point de partir, M. Lacroix dit à Mme Larocque, « Nous serons obligés de revenir ce soir vers 10 ou 11 heures pour une expérience que je veux faire. Ayez l'obligeance de nous attendre. » Henriette inclina le front sans répondre. Elle se laissait aller à présent, sans force et sans résistance, au torrent qui l'emportait. Vers 11 heures du soir, en effet, Lacroix revint, accompagné par Tristot et Pivolo, qui restèrent en bas. Monsieur Lacroix monta. Au salon, il dit « Je vous demanderai la permission, madame, de pénétrer dans votre chambre. Oh, pour quelques minutes seulement. Mais que voulez-vous donc faire ? Vous allez le voir, excusez-moi de mon importunité et de mon indiscrétion. Il ne s'agit que d'une expérience. » Et il entra dans la chambre et alla ouvrir la fenêtre et passa sur le balcon. En face, la maison de Larouette, morne et déserte depuis l'assassinat, parut s'animer tout d'un coup et vivre. Devant la fenêtre ouverte de la victime, une ombre s'agita. La lumière d'une bougie placée sur la table éclaira soudain la scène, tout le théâtre du crime. Lacroix, alors, vint prendre Suzanne par la main. « Maman, maman, dites, je veux pas, je veux pas !» Henriette, machinalement, s'était approchée du balcon, ne devinant pas ce que voulait faire M. Lacroix. Mais brusquement, ayant vu, elle comprit. Elle laissa échapper un cri d'horreur. « Non, vous ne ferez pas cela !» dit la malheureuse femme en se jetant entre Suzanne et M. Lacroix. « Mais ce serait atroce, ce serait odieux !» Et cela ne vous est pas permis. C'est assez de nous torturer depuis 2 jours comme vous le faites. Vous êtes chez moi, dans ma chambre, et j'ai le droit de vous chasser. Allez-vous-en, allez-vous-en. » Elle était dans une agitation voisine de la folie. Elle se reculait devant la croix, serrant Suzanne contre elle, cachant dans sa robe le visage terrifié de l'enfant. « Mais, madame, réfléchissez, disait la croix. Je vous ai dit que ma fille était malade. Il faut avoir pitié d'elle. Une trop forte émotion pourrait la tuer, tellement elle est impressionnable et nerveuse. Ayez pitié d'elle, monsieur. Enfin, que voulez-vous donc obtenir ? Que voulez-vous de moi ? Qu'avons-nous fait ? Qu'espérez-vous ? Pourquoi depuis 2 jours êtes-vous entré de force dans notre vie et ne nous laissez plus un instant de repos ? Un crime s'est commis près de nous. Est-ce donc la faute de ma pauvre petite fille ? Est-ce donc ma faute à moi ? Mais vous outrepassez votre devoir. Votre zèle vous emporte trop loin. La chambre d'une femme devrait vous être sacrée. Et ce qui devrait vous être sacré plus encore, c'est l'innocence de cet enfant, ce sont ses terreurs, ce sont ses larmes. Allez-vous-en, vous dis-je. J'ai le droit de vous ordonner de partir, et je ne veux pas que vous restiez ici plus longtemps. un mot très froid du commissaire de police la rappela à la raison. Puisque votre fille et vous, vous prétendez n'avoir rien vu du meurtre de la Rouette, comment devinez-vous que nous voulons reconstituer la scène du crime ? Elle se tut, baissant le dos. Puis après un moment d'une voix faible et suppliante, « De grâce, monsieur, par pitié, laissez-nous. » Lacroix avait pris doucement Suzanne par la main. Il disait, « Puisqu'elle n'a rien vu, d'où vient sa frayeur ? Et pourquoi ne veut-elle pas monter avec moi sur le balcon ?» Suzanne, tout à coup, s'éloigna de sa mère et la regarda en face. Et ce regard consolait la pauvre femme et disait clairement « Ne crains rien, je te comprends, je suis forte. » Et elle se laissa entraîner sur le balcon. En face, dans la petite chambre meublée d'acajou, comme au soir du crime, un homme était assis devant son secrétaire ouvert et faisant mine de compulser des papiers. Cet homme qui occupait la place de la Rouette, c'était l'un des agents, Tristot. Derrière lui, sur la table qui occupait le milieu de la pièce, une bougie brûlait dans un chandelier de faïence, la même bougie qui avait éclairé le crime. Lacroix toucha du doigt l'épaule de Suzanne. « Regarde, mon enfant, dit-il, et si tu as vu, tu te souviendras. » Soudain apparut dans la rue un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau de forme, de couleur grise, bordé d'un large ruban noir. La lune permettait de distinguer ces choses, et vêtu d'un pardessus gris à pèlerine. Cet homme, c'était l'autre agent Pivolo. Le vêtement et le chapeau étaient ceux de Roger Larocque le soir du crime. Il traversa les marronniers et pénétra chez la Rouette. Un instant après, il entrait doucement dans la chambre où Tristot travaillait, sans défiance à son secrétaire. Mais tout à coup, Pivolo ayant remué une chaise, Tristot se retourna, l'aperçut, et les deux agents firent mine de se jeter l'un sur l'autre, car d'après la déposition du médecin, la posture du cadavre, l'état des lieux, Lacroix n'avait pas eu la peine de reconstituer la scène du meurtre. Et l'on voit qu'il ne s'était pas trompé. « On distingue parfaitement, » murmura le commissaire de police. « Il est évident pour moi qu'une personne placée ici, au moment de l'assassinat, devait ne perdre aucun détail. Or, comme Madame Larocque et sa fille se trouvaient, Victoire l'affirme, sur le balcon, il est facile de conclure qu'elles ont tout vu. » Il avait tenu tout le temps de cette scène Suzanne par la main. Il espérait surprendre un tressaillement à l'apparition surtout de l'agent vêtu des habits de son père. Mais la main brûlante de l'enfant était restée inerte dans la sienne. Il se pencha sur elle et la regarda de très près. Alors il vit qu'elle avait les yeux si obstinément fermés et avec tant de force que les paupières formaient sur deux 1000 rides. Elle avait voulu ne rien voir et elle n'avait rien vu. « Sublime enfant !» murmura le magistrat. « Elle m'a vaincu !»